chronique des littératures paysannes avec Mahmoud Alaya. Adieu Mahmoud, à cette coupe encore, on est parti de la de Gascogne pour rencontrer ces années qui de Jacques Faget, une régente à la retirada, une régente de l'école publique. Mais qui nous conte d'histoire du campestre et de la campagne, d'histoire des paysans.
Oui, oui, bonsoir. Donc, Jacques Faget est né à Manciette-Sauboire. C'est une petite commune dans le Bas Armagnac. Il est fils de paysan et il a fait carrière dans l'enseignement comme instituteur en milieu rural. Il connaît bien ce milieu rural, ainsi que la vie paysanne dont il est passionné. Il est à la fois écrivain, poète et artiste. Il n'est pas musicien, mais enfin, il aime bien la musique. Ah, il a dirigé une chorale, il aime bien ce domaine-là.
Une mélomane de mailles.
Voilà. Il a écrit plusieurs ouvrages en prose, des recueils de poèmes. Il a fondé et dirigé pendant plusieurs années la chorale de Sauboire et il est membre de l'association des écrivains paysans dont je voudrais rappeler l'adresse du site internet. Donc c'est www.écrivain-paysan.com. Je répète, www.écrivain-paysan.com. Alors, sur ce site, on trouve les informations sur plus de 400 ouvrages écrits par des paysans pour témoigner de leur mode de vie et de la culture paysanne dans les différentes régions françaises. On trouve également les contacts pour ceux qui veulent en savoir plus ou rejoindre l'association qui regroupe de nombreux écrivains et artistes dans les domaines très divers, la peinture, la sculpture, la photo, etc. Alors, moi j'ai rencontré récemment Jacques Faget et il m'a accordé un entretien. Écoutons-le.
Est-ce que d'abord, pour les auditeurs, tu pourrais donner un petit aperçu sur tes origines, ton milieu familial, ton village ?
Je suis né à Sauboire, un petit village du Bas Armagnac, dans la commune de Manciette. Mon père est gascon, ma mère est venue d'Italie à l'âge de 17 ans. Mais ma famille est gasconne, est à Sauboire depuis, disons toujours, puisque j'habite dans la maison paternelle, où mes ancêtres ont vécu depuis au moins Louis XV.
Oui, donc c'est très ancien. C'est un milieu familial implanté en Gascogne depuis Louis XV. Oh. Ouais.
Voilà.
Et oui. Alors, qu'est-ce que vous faisiez ?
Eh bien, nous faisions de la polyculture. Mm-hmm. C'était une petite propriété. Nous avions de la vigne, du blé, de l'avoine, de l'orge, et puis de la volaille en quantité, des chevaux, des vaches. Et ça ne nous permettait pas de nous enrichir, mais nous vivions heureux, ça c'est sûr.
C'est une petite exploitation.
Petite exploitation, oui, qui faisait 23 hectares à peu près. Voilà.
Et la famille, toute la famille travaillait dans l'exploitation ?
Toute la famille travaillait dans l'exploitation, les enfants compris.
D'accord. Bon, et donc, tu as eu une formation, parce que tu n'es pas resté paysan.
Oui. Oui, je suis allé, j'ai passé l'examen d'entrée en sixième, parce qu'à l'époque, il fallait passer un examen pour entrer en sixième. C'est mon institutrice, donc, qui a voulu que je passe cet examen. Et j'ai fait mes études secondaires au collège de Condom. J'ai eu donc le bac, les deux bacs, puisqu'il y avait deux bacs à ce moment-là, deux baccalauréats.
Le bac en deux parties, quoi.
Le bac en deux parties, voilà. Ouais. Et ensuite, que faire ? Eh bien, j'avais, je crois que j'avais découvert dans un, dans une revue, la vie d'un instituteur qui m'avait beaucoup intéressé. Et ensuite, mon institutrice, qui était ma voisine, elle habitait en face, voulait que je la remplace donc dans, dans le village. Et comme je n'étais pas passé par l'école normale, je suis entré donc par la petite porte. J'ai fait des remplacements pendant 4 ou 5 ans. Remplacement donc...
Remplacement d'instituteur ou d'institutrice en milieu rural, c'est ça?
Voilà.
Bon, tu as commencé avec ça.
Voilà.
Et après?
Mais remplacement interrompu par des moments où je n'avais pas de, de travail, quoi. À ce moment-là, comme je vivais toujours chez moi, je redevenais paysan et j'aidais mes parents à la ferme.
Voilà, donc intermittent, instituteur intermittent et paysan intermittent. Voilà. Et maintenant, alors l'écriture, on va parler un peu de ton œuvre. Et donc, tu vas nous dire un peu, parce que tu as écrit plusieurs sortes de d'écrits, hein, des romans, des poésies, des nouvelles, etc. Comment tu es venu à l'écriture?
Bon, ah oui, alors là, j'ai envie de dire que l'envie d'écrire, elle succède à l'envie de lire. Or, enfant, j'ai beaucoup lu. Beaucoup lu. Et, mais c'est au collège, donc, que pour la première fois, j'ai éprouvé le besoin d'écrire un roman, un véritable roman. Je pouvais avoir 16 ans, peut-être. Ça se passait en étude du soir. C'est l'étude qui précédait le repas du soir, donc.
Donc, premier roman à 16 ans, pratiquement.
Non, l'envie d'écrire.
L'envie d'écrire.
D'accord. L'envie d'écrire un roman.
Ouais.
Et à cette époque-là, j'avais souvent des engelures aux pieds, des engelures très douloureuses, et j'étais autorisé à me rendre à l'infirmerie quand je le souhaitais, quoi. Donc, ce soir-là, je n'avais pas d'engelure, mais j'avais d'autres démangeaisons. C'était la démangeaison d'écrire.
Voilà, donc l'envie d'écrire qui est devenue une maladie.
Voilà. Et donc je suis sorti et je suis allé à l'infirmerie. Et à cette époque-là, donc, j'étais influencé par un écrivain du Grand Nord canadien, James Oliver Curwood. Et j'avais envie d'écrire l'histoire d'un coureur des bois ou d'un trappeur. Donc, je vais à l'infirmerie et j'écris une page sur ce trappeur dans sa cabane. Et puis, d'un seul coup, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, une nausée imprévisible m'a pris. Mais la nausée de ce que j'écrivais. Donc déjà, je pense que j'étais conscient de ce qui, que je pouvais faire ou de ce que je ne pouvais pas faire, de ce que je pouvais écrire et ne pas écrire. Et donc, je suis revenu à l'étude et j'ai abandonné mon trappeur dans sa cabane. Je ne sais pas s'il y a encore.
Voilà, voilà. Bon, donc, première expérience, difficulté de l'écriture. Envie, mais aussi difficulté.
Voilà. Ensuite, quand j'étais en classe de première et de philo, oui, grâce à un copain qui est décédé malheureusement, j'ai découvert Giono. Et j'ai eu une réelle passion pour Giono. Donc, je me suis mis à écrire aussi sur la campagne, sur la vie paysanne, sur ma famille. Mais je le faisais en cachette, bien sûr, en étude du soir, toujours. Et j'avais heureusement un copain qui était à côté de moi, qui était complice et qui m'aidait. J'étais entouré de dictionnaires et d'ouvrages scolaires. Mais en réalité, j'écrivais dans un petit carnet des scènes de la vie de la vie gasconne. C'était, je pense, maladroit, mais assez juste du point de vue de l'observation. J'ai d'ailleurs encore ce petit carnet dans mes archives.
Voilà, c'est le début des romans. Alors après, on est passé au vrai roman, et tu en as écrit plusieurs, mais on va pas les citer tous. On va parler d'un roman qui a eu un prix, notamment le prix des aînés ruraux. Hein. En quelle année c'est la part du feu. Ça s'intitule La part du feu, et c'est édité chez Cheminement. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce roman qui a été primé donc en 2002, La part du feu.
Oui, c'est La part du feu ou La victoire d'Aristide, paysan de Gascogne. Aristide, en réalité, c'était mon père. Et j'ai écrit ce livre en ayant en tête une biographie, mais une biographie romancée, dont il y a dans cet ouvrage des personnages authentiques, ma famille, mais il y a aussi des personnages que j'ai inventés. Et la victoire d'Aristide, c'est celle de la victoire contre la guignasse, comme il disait. La guignasse, c'était le mauvais sort. Et cette guignasse a été vaincue par le feu de Saint-Jean, qui à l'époque avait des pouvoirs assez extraordinaires, des pouvoirs auxquels on croyait. Donc à un printemps qui a été catastrophique, grâce aux vertus du feu de la Saint-Jean, l'été s'est déroulé paisiblement. Ça a été un été... Donc, je cherche un mot, un mot qui convienne, un été très serein, un été très beau, et l'histoire se termine par une naissance, la petite Angelina, donc voilà.
Bon, donc ça c'est un roman sur la légende de la Saint-Jean, du feu de la Saint-Jean, quoi, si l'on veut. Après, ça a été suivi par une suite de ce roman dans un autre intitulé Saison, pourquoi mourrez-vous, et aussi publié chez Cheminement aussi, donc un peu après, quoi. Je sais pas en quelle année a été publié ce Saison, pourquoi mourrez-vous? Et qu'est-ce que comporte cette suite? C'est en 2007. Voilà.
Oui, alors donc, c'est une suite du premier. C'est une suite de La part du feu. Oui. Dans ma tête, je voulais faire une trilogie. Le troisième roman n'a pas été encore écrit. Donc, c'est la suite, où l'on retrouve les mêmes personnages, mais une dizaine d'années après, c'est-à-dire dans les années 56, 57, 58, 59, 60. Mm-hmm. Voilà. Donc les enfants ont grandi, les deux aînés sont au régiment, l'un a été rappelé en Allemagne, l'autre a été appelé donc en Algérie, et le troisième... qui était plus jeune est resté à la maison et lui a fait des études et est devenu bachelier. Voilà, donc ce deuxième roman raconte plutôt l'évolution des habitudes, l'évolution de l'agriculture à cette époque-là. Et la mécanisation est en marche, donc on se pose la question, les enfants en particulier, que va devenir la propriété? Car l'Aristide, le père, qui est un vrai Gascon, donc, qui est attaché à ses animaux, qui est attaché à ses habitudes, ne veut pas d'un tracteur. Les enfants, eux, veulent un tracteur.
Oui, alors ça, c'est le conflit des générations. Ouais. Hein, et ça se concrétise à propos de acheter ou ne pas acheter le tracteur.
Le
quoi.
Tracteur.
Voilà. Ouais. Bon. Et donc, ça s'est vécu, c'est un exemple. Quoi. C'est... Mais on le trouve partout, le conflit des générations, voilà. Parce ouais. que le mode de vie change et les parents veulent garder leur mode de vie, les enfants veulent en changer. Ouais. Bon, c'est très intéressant. Ouais. Et alors, maintenant, il y a un autre livre qui vient de sortir, c'est pas, il n'est pas pas tout à fait dans la trilogie, mais qui vient de sortir là. C'est le titre. J'ai vu mourir ma terre. Le syndrome du bulldozer. Le syndrome du bulldozer chez un autre éditeur, édition du Carillon. Édition du Carillon en 2010. Alors, qu'est-ce que tu as voulu mettre dans ce syndrome du bulldozer?
Alors, ce syndrome du bulldozer, donc, c'est une révolte. Une révolte contre les formes de la modernité, c'est-à-dire certaines formes de la modernité que je considérais comme négatives. Destruction de paysages, séculaires, pollution, comportements nouveaux, et que je refusais donc systématiquement. Mais cet ouvrage est assez dur par moment. C'est une critique d'une civilisation nouvelle qui était en train de naître et que je supportais difficilement. Donc je l'ai écrit, ce livre, il y a 25 ans à peu près. Je ne l'ai jamais présenté à un éditeur car je craignais des représailles à l'époque.
Mais ces problèmes sont actuels, ça, c'est le problème d'aujourd'hui, ça.
Ils sont toujours actuels, oui, mais moi j'ai un petit peu évolué, j'ai mis de l'eau dans mon vin, j'ai compris quand même que certaines choses étaient nécessaires, d'autres non, que je combats toujours.
Merci donc pour ce premier aperçu sur les romans.
Que restera-t-il sur la terre dans 50 ans? On empoisonne les rivières, les océans, on mange des hydrocarbures, que sais-je encore? Le Rhône charrie du mercure, des poissons morts. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? Le monde a perdu la boussole, qu'a-t-il gagné? Des plages noires de pétrole pour se baigner. L'atome va régner sur terre comme un seigneur. Qu'en ferons-nous? C'est une affaire qui me fait peur. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux? À peine le malheur des hommes est-il moins grand que déjà pourrissent les pommes des nouveaux temps. Enfants, enfants, la terre est ronde, criez plus fort pour que se réveille le monde s'il n'est pas mort. Pour les enfants des temps nouveaux, restera-t-il un chant d'oiseaux?
Qui eran las cròniques de literatura paisana me Mahmoud Alaya, la primera partida sur l'obra de Jacques Faget.